Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC continue de rouler. Nous, on continue de rouler, contrairement à la Formule 1, qui est bien évidemment en pause, vous le savez, suite au conflit au Moyen-Orient. Les Grands Prix ont été reportés, on va dire comme ça, on va pas dire annulés, ils ont été reportés. En tout cas, ils ne se produiront pas durant ce mois d'avril. Et nous, on vous avait promis de continuer à faire des contenus sur la Formule 1, à produire des contenus. Et donc, on sera au rendez-vous toutes les semaines pendant ce mois d'avril avec notre team principal, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Yes sir, salut mon Nico et bonjour à tous.
C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un petit break aussitôt dans la saison, hein. On n'est pas habitué quand même, hein.
Bah oui, t'as raison, et même les équipes sont pas vraiment habituées, mais ça leur permet de travailler d'une autre manière. Et puis on va se retrouver à Miami, Miami Gardens.
Exactement.
Sur le on parking va se retrouver du à stadium. Miami.
Ouais, c'est ça, pas loin de chez Jean-Luc d'ailleurs, enfin pas loin, c'est pas si proche que ça de chez toi, mais parce que c'est grand Miami, mais malgré tout, pas trop loin de chez Jean-Luc, ouais,
25
et on va pouvoir du coup revenir sur tout ce qui se passe hein, durant ce mois de trêve. Mais là aujourd'hui, dans le paddock RMC, on vous amène à la rencontre d'un visage et d'une voix qui est encore assez discrète du grand public, mais déjà très surveillée dans le monde du sport automobile. Il a 18 ans, il fait partie de cette nouvelle génération de pilotes français qui veulent bousculer la hiérarchie et qui veulent surtout rouler en Formule 1 un jour. Il a été champion de F4, il roule actuellement en Formule 3 et surtout il a gagné le mythique Grand Prix de Macao l'an dernier. C'est une course quand même que des légendes comme Ayrton Senna ou Michael Schumacher ont remporté avant lui, hein. Ça pose un peu le bonhomme, on va parler de ses ambitions, de sa saison. Théophile Naël est avec nous dans le paddock RMC. Salut Théophile.
Salut, bonjour à tous.
Oui, salut
ça va,
Théophile.
Ça va la présentation? Moi, je t'ai mis à côté de Senna et Schumacher, je me suis dit, comme ça, on pose un peu le bonhomme. Ben les gars, c'est parti. On va revenir avec Théophile sur sa carrière, sur ce qu'il a envie de faire. C'est parti dans ce paddock RMC spécial Théophile Naël. Bon Théophile, avant de te demander comment tu as débuté le sport automobile, où tu en es dans ta saison, Jean-Luc, faut que tu nous rappelles, pour ceux qui découvrent dans le paddock RMC les formules un peu annexes que sont la F2 et la F3, ce que ça représente de rouler en F3, quel tremplin c'est également pour des jeunes pilotes, parce que Théophile Naël, on rappelle qu'il a 18 ans, hein, Théophile, hein, c'est un tout jeune pilote, hein.
Oui, bien sûr. Écoute, c'est une catégorie qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, en parallèle de la Formule 1, vraiment. C'était au départ, alors c'est marrant, c'était des petites monoplaces, les Cooper 500 qui étaient équipés d'un moteur monocylindre de 500 cm3. Alors aujourd'hui, on en est très très loin, puisque c'est un 3,4 litres qui est très puissant, hein, qui fait 380 chevaux, et donc ça emmène les monoplaces à quasiment 300 km/h. Donc elle a énormément progressé. Il faut savoir que initialement, il y avait quelques courses internationales et naturellement Macao et Monaco notamment en faisaient partie, et une victoire pour les jeunes pilotes devant le monde de la Formule 1 à Monaco était extrêmement importante. Et tu as cité Ayrton Senna évidemment, qui a fait d'ailleurs le grand saut, hein, directement. Les grands pilotes ont fait le grand saut de la F3 à la Formule 1 directement, en chintant soit la Formule 3000 soit la Formule 2 selon les époques. Et puis ensuite, eh bien, en 2019, la FIA a regroupé donc ce qui était le championnat GP3 et le championnat de Formule 3 en un seul championnat international qui se déroule d'ailleurs en ouverture des Grands Prix de Formule 1. C'est absolument fabuleux. Il devait y avoir 10 épreuves cette saison. Et puis évidemment, tu l'as évoqué en ouverture, à la suite de l'annulation notamment de Bahreïn, où il devait y avoir une épreuve de Formule 3, il n'y en aura que 9. Mais écoute, après Melbourne, ce sera Monaco, carrément, au début juin. Et puis Barcelone, Spielberg, Silverstone, Spa, Budapest, Monza et Madrid. Quelle liste formidable, Théophile.
Ah oui.
Exactement, ouais. C'est un très beau calendrier, et comme vous l'avez évoqué, on est privilégié de pouvoir ouvrir les Grands Prix de Formule 1, et c'est toujours un réel plaisir, et ça me fait rêver, ce monde.
Bah Théophile, parle-nous un petit peu de ta saison. Là, on va se focaliser sur cette saison 2026. Tu as signé, c'est ta deuxième saison du coup en F3. Tu as signé chez le champion en titre, hein, Campos Racing. Parle-nous de cette découverte, de cette première course et de ton ressenti depuis que tu es arrivé en F3 dans cette catégorie.
Alors oui, deuxième saison pour moi avec Campos, donc l'équipe championne en titre. Donc c'était vraiment un privilège de pouvoir rouler pour une équipe qui vient de gagner le championnat l'an passé. J'ai notamment gagné Macao avec mon ingénieur Campos que j'ai cette saison. Donc ça m'avait permis un peu de mettre en jambe avec lui, de pouvoir bosser en amont avant de commencer cette saison de Formule 3. Donc voilà, mais on a eu Melbourne, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, début du week-end avec une première pole position pour moi dans cette catégorie. Pour commencer avec Campos, il n'y a rien de mieux. Malheureusement, une petite pénalité en course qui me sort des points, mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que le rythme il est là, je m'entends très très bien avec toute l'équipe, c'est très familial, j'adore bosser avec eux. Et pendant cette longue trêve jusqu'à juin, voilà, j'en profite pour faire du sport là-bas en Espagne, faire beaucoup de simulateurs et préparer les prochains meetings qui vont s'enchaîner très rapidement dès le mois de juin.
Ouais, tu m'étonnes. T'as des ambitions, j'imagine, Théophile, là, quand on démarre une deuxième saison en F3. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs précis? Est-ce que voilà, faut absolument accéder en F2 à la fin de la saison? Est-ce que tu te laisses du temps? Voilà, quelles sont tes ambitions?
Alors moi, j'ai toujours, je me dis toujours que c'est étape par étape. Voilà, j'ai pas envie de griller les étapes, donc je prends les courses après course. Donc voilà, bien sûr, l'objectif c'est de monter en Formule 2 l'année prochaine, parce que voilà, l'objectif principal numéro un et qui est mon rêve, c'est d'arriver en Formule 1 un jour. Donc voilà, il y a aussi des académies qu'il faut regarder. J'essaye de faire du mieux possible pour justement pouvoir accéder un jour dans une académie et que ça puisse me propulser vers le monde de la Formule 1.
Ah justement, oui, Jean-Luc, on avait une question, pour Théophile sur les académies de F1.
Ah ben on en a plein. Allez, on part là-dessus. Je voulais revenir un petit peu sur son histoire. Bon, il est très jeune, hein. Il est né le 27 juin 2007 à Saint-Étienne. Donc évidemment, on va évoquer un autre sport, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on parlait d'académie. Ben évidemment, Théophile, on le sait, entrer dans une filière, parce que évidemment, je vais te poser la question qui fait mal, hein. Combien ça coûte une saison de Formule 3 à ce niveau-là, surtout dans l'une ou sinon la plus grande équipe Campos. Puis tu étais dans une très belle équipe également, hein. Van Amersfoort Racing l'an dernier, c'est pas rien non plus. Donc, alors, la question de Nico, et on y va, ton objectif, c'est vraiment d'intégrer une filière le plus tôt possible qui te permettrait évidemment de franchir les deux dernières marches.
Alors, pas forcément le plus tôt possible, comme j'ai dit, c'est un peu étape par étape, et je pense que ça viendra avec les résultats un jour, j'espère. Mais voilà, déjà, c'est de faire cette saison 2026 de Formule 3 très très bien. Faire du mieux possible. J'ai notamment essayé la formule électrique qui s'est très bien passée en rookie test à Madrid. Donc voilà, j'essaye un peu de me montrer un peu de partout, avoir le plus d'opportunités possible. Aussi, c'est de l'expérience prise d'essayer d'autres catégories. Et après, comme vous voulez savoir, le prix d'une saison en Formule 3, c'est des sommes qui sont très élevées. Ça, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc c'est un peu aussi le nerf de la guerre, je vais dire, de trouver des partenaires pour financer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être une académie plus des partenaires à côté pour pouvoir intégrer la Formule 2 l'année prochaine.
Alors, on va évacuer le sujet justement du budget, mais je voulais te poser la question d'entrée. Qui sont tes partenaires et comment es-tu arrivé jusque-là? Alors, ton papa est concessionnaire automobile, hein, je crois, on va en parler. Il n'est certainement pas pour rien dans ta vocation de pilote, j'imagine.
Exactement, ouais. Concessionnaire automobile donc sur Saint-Étienne. Il n'a jamais eu la chance plus jeune de faire du sport automobile, mais il m'a donné cette passion qui est la plus belle à mes yeux. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 4 ans, dans mon jardin, avec des cônes, des balles de tennis, pour essayer de créer des réflexes avec mon papa derrière, bien sûr. Et puis après, ouais, j'ai commencé les championnats régionaux, donc la Ligue Rhône-Alpes du côté de Lyon, Valence. Après, j'ai fait la Ligue PACA, l'époque où il y avait un grand niveau là-bas. Et puis les championnats internationaux en karting. Et puis, dès que j'ai pu passer en Formule 4 à l'âge de 15 ans, c'est ce que j'ai fait avec une équipe stéphanoise notamment.
Ok. Et quand on démarre le kart à 4 ans, Théophile, tu t'en rappelles comme un... comme un jeu de cette découverte du kart où très vite c'est devenu un peu une obsession, t'es devenu totalement accro?
Alors je pense que ce serait mentir de dire que je suis devenu accro totalement, parce qu'à cet âge-là, je pense qu'on ne réalise pas forcément ce qui se passe. Mais forcément, oui, c'était un peu comme un jeu, c'était ce que j'avais envie de faire tout le temps. Moi, ce n'était pas d'aller sur la PlayStation, c'était voilà, de faire du kart dans le jardin le week-end. Et puis après, dès que j'ai commencé à prendre en maturité, c'est devenu très vite une passion. Et dès que j'ai commencé les courses et à voir que je m'amusais et que j'étais en capacité de pouvoir me, entre guillemets, me battre devant, bah, ça m'a tout de suite plu et j'ai accroché.
Tiens, on parlait des partenaires, Jean-Luc, mais j'en profite pour passer un appel. Hein, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de participer au développement de pilotes français de très haut niveau, vous nous envoyez un message et on met en relation Théophile Naël avec de potentiels partenaires. C'est important de le dire, Jean-Luc, parce qu'on le sait, ah oui, que c'est une vraie galère de financer cette saison. Hein.
Bah oui, c'est le nerf de la guerre, effectivement. Alors, mon autre question, on l'a peut-être déjà évoquée, est-ce que tu as un manager, Théophile, ou bien est-ce que c'est ton papa qui fait office de manager, ou bien tu parlais des gens de Campos, ton ingénieur, est-ce que tu as un manager pour t'aider à négocier ta carrière et tes sponsors, tes partenaires?
Alors, depuis très peu, oui, j'en ai un, mais jusqu'à maintenant, c'était mon papa qui essayait de trouver tout ça, de faire du mieux possible avec ses connaissances et ses contacts. Et puis maintenant, j'ai un manager. Voilà. Après, je m'entends très bien avec Campos aussi. Donc, ils essayent de m'ouvrir aussi des portes à droite, à gauche. Et voilà, le sport auto, ça reste un petit milieu, un cercle assez fermé. Donc, voilà. Après, c'est vrai que mon père essaye de faire du mieux possible. Mais bon, pour le moment, on s'en sort quand même pas trop mal. On arrive à avoir des places dans de belles équipes.
Bah, aujourd'hui, tu as 18 ans, Théophile, mais tu as quand même un gros CV. C'est ça qui est assez paradoxal dans le sport auto. Des fois, quand on se penche sur les profils des pilotes qui ont énormément de potentiel, tu te sens encore comme un jeune pilote ou moi, j'ai la sensation que tu es déjà pro, en fait, à 100% dans ton rapport à la course, dans ta préparation. J'ai l'impression que tout est ultra professionnel.
Ouais, c'est vrai que tout est très pro. Après, voilà, ça a toujours été mon rêve d'un jour être pilote pro. Pour le moment, je ne suis pas rémunéré parce que voilà, tant qu'on n'est pas en Formule 1, on touche pas de salaire. Donc rien n'est encore acquis, mais j'espère que ça arrivera prochainement. Mais c'est vrai que dans tout ce que je fais, le niveau sport, discipline, débrief avec les ingénieurs du simulateur, voilà, ça me prend énormément de temps et je me donne à fond justement pour un jour décrocher un contrat pro. Mmh.
Alors, tu as déjà une carrière très internationale, hein, Théophile, et c'est ça qui est intéressant, puisque tu as piloté dans le championnat d'Espagne, le championnat des Émirats arabes, le championnat du Middle East. C'était important pour bâtir une expérience. Puis j'ai vu que tu t'exprimes très, très bien en anglais.
Oui, bah, c'est très important. Voilà, j'ai justement essayé de pousser à fond la langue étrangère, l'anglais, pour pouvoir travailler du mieux possible avec les équipes, pour qu'il n'y ait rien au hasard. Depuis très jeune, je bosse ça à fond. Et puis les Émirats et tout ça, voilà, c'était une belle opportunité. Ça reste des circuits qui, a plus tard aussi en Formule 1, si un jour l'occasion vient à se présenter. Donc ouais, c'était une très belle expérience.
Une autre petite question.
Vas-y, Jean-Luc.
Sur Campos Racing, et tu sais, c'est mon habitude, si tu écoutes RMC de temps en temps, c'est pour rigoler, hein, je te rassure.
Bien sûr.
Tu n'es pas le nain de l'équipe chez Campos, parce que Hugo Chunku, j'espère que je le dis bien, fait 1m92, lui il est américain, et Ernesto Rivera, pardon, le mexicain, 1m85. Et toi, si je ne m'abuse, tu fais 1m70, non?
Ouais, exactement. Allez, à 71, si on veut être précis.
Allez, on y va.
C'est vrai que je suis un peu le nain de l'équipe. On me rajoute un peu plus de poids dans la voiture que les autres.
Mais ouais. Non mais blague à part, je sais pas si vous partagez une monoplace en essai privé par exemple, ça doit poser des problèmes de réglage des commandes, non?
Ouais, exactement. Ouais. Après, on fait pas beaucoup d'essais privés, mais c'est arrivé que pour pouvoir modifier les pédales, le siège, etc., ça prend un peu de temps.
Pour revenir sur ta trajectoire un peu, Théophile, alors en 2023, tu domines la F4. Tu arrives en F3, ensuite en 2025. Est-ce que ça a été un vrai gap? Ça, c'est la première question. Et parle-nous de cette découverte de la F3 l'an dernier, de ce circuit, avec ses 10 grands prix et côtoyer le paddock, quoi. Côtoyer les grands pilotes, j'imagine que tu bades tes légendes de la F1, quoi.
Ouais, c'est vrai que le premier week-end où je suis arrivé en Formule 3 à Melbourne l'an passé, c'était l'effet waouh, être à côté du paddock de Formule 1, les voir passer, c'est juste magique. Pouvoir échanger avec 2-3 pilotes parce qu'on arrive à les croiser en allant au paddock ou en partant du circuit le soir. Donc non, ça c'est magique. Et le step entre la F4 et la F3 reste énorme, dans le sens où en F3 on a très peu de temps de roulage. Si c'est 5 tours en free practice, c'est le bout du monde, en qualif de même. Donc on vient d'une catégorie en F4 où on roule peut-être, je sais pas, 100-110 tours dans le week-end, ce qui est énorme, à un championnat où ça se joue sur très peu de détails. Les écarts sont minimes, il faut arriver à s'adapter de suite, être direct dans le rythme. Donc ça, pour un rookie, c'est pas facile dès la première année. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'aussi les pilotes plus expérimentés en F3 sur une deuxième saison arrivent à performer, parce qu'ils arrivent sur un circuit qu'ils connaissent déjà, avec les mêmes points de repère, et ça joue énormément.
Alors, je te mets pas la pression, hein, Théophile, mais tu sais, à une époque, on disait toujours une année pour apprendre, une année pour gagner. Alors gagner, et Nico l'évoquait déjà, tu as gagné à Macao, ce qui n'est pas rien du tout, et surtout d'une manière, moi, qui m'a bien plu, parce qu'il y a eu ce safety car. Ah bon, à Macao, il y en a souvent, et là, il faut être opportuniste. On a relancé la machine donc derrière le safety car, tu étais troisième, et tu as fait le freinage au bout de la ligne droite à Marie Boya et Enzo Deligny, qui est un autre pilote français, à Macao, pour se faufiler entre les rails. Si tu me pardonnes l'expression, il faut être solidement équipé, non?
Exactement. C'était maintenant ou jamais. Donc, fallait y aller. C'était l'opportunité de la course. Fallait la saisir. Mais ouais, c'est vrai que sur le coup, on pense pas à grand chose. On met à fond et on verra si ça passe.
Et c'est ça, passé.
C'est le plus grand, et c'est passé, ouais. C'est le plus grand moment de ta carrière, Théophile, tu dirais, Macao, même en termes d'émotion, dans ce que tu as vécu dans le scénar de la course là, sur lequel on revenait, c'est le plus grand moment.
Je dis bien sûr, je pense que c'est mon plus grand moment, avec aussi la F4 espagnole, le titre. Je venais du karting où je faisais des championnats internationaux, mais en X30, pas en Oka, ce qui est l'Oka un peu plus représentatif pour tout le monde. Donc je me battais pas avec les plus grands pilotes actuels, je vais dire. Donc pour moi, de pouvoir gagner en F4, donc à la catégorie voiture, plus gros gabarit, c'était un exploit, et je me suis prouvé à moi-même qu'en fait j'avais la capacité, le potentiel de pouvoir aller loin potentiellement. Donc ça, c'était aussi un autre exploit et un grand moment de ma carrière.
Ouais, c'est à partir de ce moment-là où tu te dis vraiment, là, j'ai passé un cap, et même peut-être je peux faire un truc dans le sport auto.
Exactement.
Oui, ta victoire au championnat d'Espagne en F4, hein, c'était 2023, donc 8 victoires, c'est pas rien. Alors une question incontournable aussi, tu me pardonneras de te la poser, Théophile, mais on va enfoncer toutes les portes ouvertes cette fois-là, puis on fera mieux la prochaine fois. Non, est-ce qu'il y a un pilote que tu admires particulièrement, ou plusieurs dont tu aimerais t'inspirer? Bon, évidemment des champions du monde, j'imagine, mais parce que je te trouve, et c'est évidemment un compliment, à 18 ans, très calme, très posé, très, très logique, très méthodique. Alors, à qui tu aimerais te référer, ou quels sont ceux que tu as admirés?
Ouais, c'est gentil. J'ai toujours adoré et admiré Verstappen pour tout ce qu'il a fait très très jeune, sa capacité à s'adapter très rapidement, son agressivité aussi. Bon, au début, ça m'a un peu porté à confusion. Mes premières courses en F4 n'ont pas été terribles à cause de ça. J'étais peut-être un peu trop agressif. J'ai cassé 2-3 ailerons, mais ça m'a servi de leçon. Mais sinon, oui, Verstappen. Et sinon, j'aime beaucoup Romain Dumas, qui touche un peu plus à tout, qui a fait de l'endurance, voilà, un peu plus de rallye, tout ça. Et pour moi, ça, c'est une référence.
et qui est un type extraordinaire, en plus humainement. Oui, mais tu sais, excuse-moi mon Nico, il y a une autre expression qui me vient, évidemment. C'est toujours plus facile de calmer un pur sang que de faire avancer un percheron, si tu vois ce que je veux dire.
C'est vrai que tu as dû un petit peu, tu as travaillé sur ça, sur ce côté je me canalise et tout ça, après ta découverte de la monoplace où tu étais ultra fougueux, parce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est vrai, de l'approche mentale des courses, mais vous jouez déjà très gros, en fait, à chaque course que tu disputes, en F4, en F3, même si vous calculez peut-être pas ça sur le moment, mais c'est votre avenir en fait à chaque course que vous jouez. Donc j'imagine que quand on se plante, il y a une vraie pression derrière, il faut faire un vrai boulot sur soi-même.
Ouais, exactement, surtout j'estime que je partais de, entre guillemets, assez loin, j'étais pas un pilote vraiment regardé depuis le début. J'ai commencé avec une équipe qui venait de construire sa partie F4. Donc voilà, il y avait beaucoup de pression, que ce soit l'équipe ou sur moi-même, pour essayer d'aller marquer des points, d'aller chercher des podiums. Donc ouais, au début, forcément, il y a de la frustration. Je me pose des questions, est-ce que je vais y arriver ou non ? C'est pas facile.
T'as déjà douté ? T'as déjà douté sérieusement en
bien
disant
sûr.
Est-ce que ouais, j'y arriverai pas ?
Bien sûr, alors j'ai douté en 2024, après ma saison de F4 où j'ai gagné. J'avais fait la formule régionale. Donc le championnat d'Europe F3 entre guillemets, c'était une saison très très compliquée pour moi. J'étais 20-25e, vraiment les perfos étaient pas du tout là et les résultats étaient vraiment pas où j'aimerais être, où j'aurais aimé être. Donc ouais, là j'ai douté, je me suis dit bon, est-ce que je vais réussir à avoir un siège en F3 pour 2025, est-ce que je vais réussir à finir la saison au moins sur un podium, à faire une victoire. Donc ouais, ça c'était une année très compliquée pour moi, mais au final, ça m'a vachement servi pour l'année dernière et cette année. Ça m'a vraiment construit en termes de personnes.
Alors, plusieurs questions, Théophile. La première, ça me vient, c'est à propos de Monaco. Est-ce que tu as déjà roulé d'une manière ou d'une autre ? Bon, hormis en week-end avec ta copine ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que tu connais le circuit en course ? Parce que c'est quand même un juge de paix. Et là aussi, le meilleur, évidemment, côtoie le pire. Hein, même les plus grands ont été piégés à Monaco. Alors, ça ressemble un petit peu quand même. Enfin, c'est dans l'esprit de Macao, disons. C'est un circuit en ville avec des rails partout. Et il faut être audacieux.
Oui, bien sûr. Bah, l'année dernière, donc, j'ai fait la course à Monaco. J'avais fait Macao l'année précédente, donc fin 2024, ce qui m'avait permis de m'entraîner justement pour Monaco, de m'approcher des murs, de construire la confiance sur les freinages. Et c'est vrai que Monaco, c'est très, très compliqué, notamment en F3 où ça va très, très vite, surtout sur un tour qualif. Et aussi, j'ai envie de dire que le step entre la séance d'essai et la qualification, on est à peu près 3 secondes, 4 secondes, on est à peu près 3 ou 4 secondes plus rapide en qualif. Donc on a une piste qui évolue tellement rapidement avec la Formule 1 et la Formule 2 qui passe entre ces deux séances. Donc on doit repartir de zéro entre guillemets pour la séance de qualification. Mais je tiens à dire quand même que Macao restera plus difficile à mes yeux.
D'accord. Ok. Tiens Théophile, et puis après on partira un petit peu sur la QF1. Tu vas nous parler un petit peu et nous donner ton ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que on parlait un petit peu des académies de Formule 1 qui, bien évidemment, j'imagine, scrutent tes performances. Nous à RMC, on a eu des petits échos qui nous ont fait dire que tu as eu des petites touches avec la filière Red Bull notamment. Est-ce que tu sens que ça s'accélère? Voilà. Est-ce que ça peut se décanter rapidement dans la saison ou pour l'instant c'est plus d'actualité?
Alors honnêtement, je pense pas à ça du tout. Sûrement que mon papa et mon manager, voilà, ils s'occupent de tout ça, mais j'ai pas envie d'y penser parce que même eux, ils m'en parlent pas parce qu'ils veulent que je reste concentré dans ce que je fais. Faut que je roule du mieux possible, que mes perfs soient les meilleurs possibles. Et après, si ça doit venir, bah, ça viendra un jour. Bon, je me dis que le destin il va bien faire les choses, mais voilà, je me précipite pas, j'ai encore 18 ans, donc voilà.
T'as bien raison. Tiens, partons un petit peu sur la Formule 1, Théophile. Jean-Luc, on le sait, du coup, calendrier gelé pour l'instant, course annulée. Mais du coup, Théophile, toi, t'étais à Melbourne. T'as vu les pilotes de F1 qui découvraient un petit peu cette nouvelle réglementation. J'imagine que quand on traîne un petit peu dans le paddock, il y a des trucs qui ont dû te remonter un peu aux oreilles. Parce que nous, c'est vrai que dans tous les échanges qu'on peut avoir, informels, et puis même dans ce qui remonte, hein, via les médias qui sont sur les Grands Prix, on sent que voilà, il y a plein de sons de cloche différents. On sent que c'est une réglementation qui a du mal à convaincre, même chez les pilotes. T'as senti que c'était une galère un petit peu pour eux de découvrir ce nouveau règlement?
Ouais, ça a l'air très 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 compliqué pour eux. Honnêtement, de ce que j'en ai entendu dire, c'est que même les équipes ne savent pas trop comment faire. En tout cas, c'était à Melbourne, mais je pense que voilà, tant qu'on n'arrive pas au milieu de saison, ils vont pas vraiment savoir où se situer, comment exploiter au maximum cette énergie, cette batterie et tout ça. Donc c'est un peu compliqué.
Vas-y mon Jean-Luc.
Oui, alors écoute, j'étais en train d'observer une chose et évidemment Théophile le sait encore mieux que moi, c'est l'âge de Kimi Antonelli, puisque c'est quand même le garçon dont on parle, né à Bologne le 25 août 2006, c'est-à-dire qu'il a 10 mois de plus que toi, Théophile. C'est absolument incroyable, hein, le parcours. Comme quoi, là aussi, on tombe. Bon, on connaît l'histoire d'Hamilton, etc. Mais cette histoire de Kimi Antonelli, elle est absolument incroyable.
Ouais, elle est dingue. Moi, il m'inspire énormément. J'ai pas eu la chance de rouler avec lui parce qu'il était vraiment juste un poil au-dessus en termes d'âge, donc la catégorie juste au-dessus. Mais de le voir faire ça et d'être actuellement leader du championnat du monde de Formule 1, c'est vraiment inspirant. Mais ça montre que voilà, les jeunes, on arrive en puissance, on est tous préparés au maximum. Il lui a fallu peut-être une année voilà, pour être leader d'un championnat du monde, mais on parle que d'un an dans ce niveau qui est juste hors norme, donc ouais, c'est impressionnant.
Et justement, ouais, mon Nico, ouais, excuse-moi, je suis revenu justement sur les perfs d'Antonelli, hein. Alors c'est le plus jeune pole sitter évidemment, détenteur d'une pole position en Formule 1, on l'avait signalé, il a effacé Vettel des tablettes, hein, 19 ans, 6 mois et 18 jours. Celui qui est l'auteur du tour le plus rapide à 18 ans, 7 mois et 12 jours, c'était au Japon en 2025. Avant, c'était Verstappen. Le leader donc d'une course, 18 ans, 7 mois et 12 jours, c'était au Japon en 2025. Leader du championnat, on l'a dit, ça c'est lors du dernier Grand Prix, évidemment en 2026, à 19 ans, 7 mois et 4 jours. Et le plus jeune auteur d'un hat-trick. Alors, ce qu'il ne pourra pas battre, parce qu'il y a quand même des choses qu'il ne pourra pas raccrocher, c'est le plus jeune vainqueur. Et c'était Verstappen, et tu vois, ça Théophile le sait bien, à 18 ans, 7 mois et 15 jours en Espagne, vous vous en rappelez, en 2016, et à l'époque, je l'ai commenté celui-là avec Patrick Tambay, à qui je rends hommage à chaque fois. Et puis le plus jeune podium, c'était Verstappen toujours, et les points, c'était Verstappen également à 17 ans, 5 mois et 29 jours en Malaisie en 2015, et ça n'arrivera plus jamais, mon Nico, puisqu'il faut au moins 18 ans pour être pilote de Formule 1.
Ouais, c'est vrai. Tiens, Théophile, pour terminer ce podcast. Juste, on voulait revenir un petit peu, Jean-Luc, sur les enjeux. Là, il va y avoir une grosse réunion dans quelques jours. Alors, on enregistre ce podcast exceptionnellement un mardi parce que, vous le savez, lundi de Pâques, on n'avait pas tout le monde de dispo à la rédaction. Donc, dans deux jours, jeudi 9 avril, il y a une réunion entre les pilotes. Voilà, faut que tu nous dises, mon Jean-Luc, assez rapidement, quels sont les enjeux de cette réunion. Et après, je terminerai avec une question un peu fun pour Théophile Nel qui a été dans ce podcast.
Alors, je vais faire bref, mais tu sais que pour moi, c'est très difficile, mon Nico. C'est ce que tu me demandes, un exercice. Alors, j'y vais. Ben, écoute, c'est peu de dire, c'est un euphémisme de dire que la majorité des pilotes, pour ne pas dire la totalité, il y a les bien-pensants qui s'expriment poliment, puisque je répète qu'ils ont un contrat, une partie de leur contrat qui leur interdit de critiquer et leur équipe et la Formule 1. Donc, évidemment, mais les langues se délient. Hein. On a vu que là aussi, Verstappen était leader dans ce domaine. On a vu les déclarations de Charles Hubert, Leclerc et de plein d'autres, même Norris qui paraissait adouber ce règlement, maintenant dit que c'est complètement délirant et qu'il a doublé Hamilton au Japon sans même le vouloir. Bon, moi je crois que c'est un règlement dangereux, je l'ai dit, irresponsable, je pèse mes mots, de la part de la FIA. C'est l'apprenti sorcier, ils ont découvert en trois Grands Prix ce que ça voulait dire vraiment, ce qui est une incompétence, mais crasse pour moi, je ne mâche pas mes mots. Donc on va maintenant essayer d'appliquer un cataplasme sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'on va essayer d'adopter des mesures sportives pour limiter les dégâts de ce règlement lamentable. Le problème, ce serait de changer complètement ce règlement, mais on sait qu'a priori en Formule 1, eh bien, on part pour plusieurs années, et c'est comme ça qu'on a essayé d'attirer notamment Cadillac, Audi, etc., avec un règlement qui est complètement décalé par rapport à ce qu'on aime, c'est-à-dire quand les pilotes sont maîtres de leur destin à bord de leur monoplace. Alors, on va voir de quoi ça va accoucher. On va enfin écouter les pilotes, alors que ça fait plusieurs années en simulateur qu'ils disaient que ce règlement était débile et que ça allait produire des choses très bizarres. Et on découvre, avec l'accident de Berman et de Colapinto, qu'effectivement, au détriment des pilotes, un des pilotes peut se retrouver avec 60 ou 80 km/h de différence par rapport à un adversaire. Alors, on va me dire, oui, j'ai également lu et entendu de vieux pilotes dire « Oh, mais ça s'est déjà passé avec les turbos ». Mais c'est totalement faux. Ils ont perdu la mémoire. Moi, je ne l'ai pas perdu. Ça se peut passer parce qu'effectivement, le pilote levait le pied ou avait un problème mécanique. Mais là, ce sont des éléments qui échappent totalement au pilote. Donc, j'espère que la FIA va enfin revenir complètement sur ce qu'elle a décidé. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. Et on est parti pour une saison, je pense, pénible à tous les niveaux.
Ouais, c'est clair. Et on va suivre ça avec attention. On va bien évidemment suivre aussi ta saison, Théophile. J'imagine que tu as envie d'en claquer encore d'autres, des victoires cette année. Hein. C'est ça l'objectif. Tu nous l'as un peu dit entre les lignes, mais bon, nous, on se mouille. Hein. Si tu as envie de monter en F2, faut gagner des courses, quoi, tout simplement. Hein.
Exactement. Faut être devant à la fin du classement général en fin de saison. Donc voilà, ça, c'est très clair, c'est dit. Mais voilà, je vais me sortir les doigts pour donner le maximum d'ici la fin de saison.
Et puis Monaco après Macao, ça s'écrit presque pareil. Hein, ça
ouais, il n'y a pas grand-chose.
Il n'y a pas grand-chose. Tiens, Théophile, si tu dois gagner un jour, allez, on se projette, tu arrives à atteindre ton rêve, tu es en Formule 1. Si tu dois gagner un Grand Prix avec une écurie spéciale et avec un coéquipier, tu choisis quoi ? Quelle course, quel Grand Prix, quelle écurie, quel coéquipier ?
Monaco, Ferrari et Charles.
Ah, c'est pas mal.
Très bon
choix.
C'est pas mal.
T'es un grand dingue de la Scuderia ?
Paf, bah oui, j'adore et j'ai toujours aimé cette emblématique marque, mais voilà, Red Bull, Ferrari, peu importe. Moi, j'aime tout, je suis tout, je regarde tout le monde.
Pourvu qu'elle gagne, c'est ça le plus important.
C'est ça, ouais,
exactement. Faut être devant.
Après, c'est vrai que la combinaison rouge, quand même, ça claque. Hein. Je te vois bien en rouge, Théophile, dans les années à venir.
C'est gentil.
Ça tient bien le rouge. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si jamais vous voulez en savoir plus encore sur Théophile, hein, on a bien parlé de sa carrière, de sa vie. Il y a un site internet, je crois, hein, Théophile. Théophilenael.com, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, vous
exactement,
êtes sur Google.
C'est ça.
Nico, on n'a pas réussi à parler de football, on n'a pas réussi à parler de l'épopée des Verts, alors que je pense que peut-être pas Théophile, mais son papa, ça a dû le marquer quand même. Hein, Allez les Verts, exactement.
Bah, on espère que ça va remonter en Ligue 1, Théophile, parce qu'on en est là maintenant, les Verts, faut le dire, c'est terrible. Allez, ciao, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez ce genre de contenu, de format avec des interviews de pilotes, vous n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram RMC Formule 1, le paddock RMC, vous avez toutes les infos qu'il faut, et puis venez nous dire nous donner votre avis avec des commentaires. On sera ravis de savoir si ce genre de format ça vous plaît. Ciao.
Le paddock RMC.